L'Officine Universelle Bully présente Rituel historique de beauté. Épisode 7. Vers la sublime porte. La jeune et secrète Emel s'adonne à un dernier hammam avant de tenter de s'enfuir du harem. 1630, Constantinople, Empire ottoman. Je n'ai pas dormi de la nuit. Mon projet n'a pas arrêté de me trotter dans la tête. Pendant deux pleines lunes, j'ai travaillé à le parfaire et c'est aujourd'hui que je dois le mettre à exécution. Hier soir, alors que le harem célébrait la nouvelle vie dans le ventre de l'épouse principale, j'étais tranquillement couchée dans ma chambre, ayant prétexté avoir de la fièvre. Les draps de soie si doux au toucher, les reflets des bougies scintillantes au plafond, le bruissement familier des feuilles dans la brise au-dessus du balcon de ma chambre, tout m'incitait à ne pas bouger d'ici. Mais, agitée et pleine d'inquiétude, j'ai pensé et repensé ce projet, passant en revue chaque étape de mon plan pour m'échapper de l'enceinte du palais. Je me présente. J'étais Emel avant que l'on me donne le nom de Gulnaz au harem. Cela signifie « jolie rose ». En tant qu'Emel, âgée de 16 ans, au village de Missy, à environ 150 km au sud de Constantinople, mes insouciantes journées se passaient à aider ma mère aux tâches ménagères dans notre modeste maison, ou à jouer avec mon petit frère. Avec des cheveux noirs de jais me tombant à la taille en cascade, une peau de porcelaine couleur d'une rose à peine éclose, des yeux de biche et une taille fine, j'étais le centre de l'attention des hommes du village et de la jalousie des jeunes filles et de leur mère. Mais je n'avais Dieu que pour Ahmed, mon amour d'enfance. De camarades de jeu, nous étions devenus des âmes sœurs inséparables, nous promettant l'un à l'autre. C'est alors que sont arrivés les marchands d'esclaves. Ayant entendu parler de ma beauté, ils m'ont recherché pour le harem du sultan à Constantinople. Le gouverneur du district, sentant une occasion de faire avancer ses affaires avec le palais, força ma mère à me livrer, et bien contre mon gré, je criais et me débattais. Je fus éloignée de ma famille et d'Ahmed. À présent, après 2 ans passés comme concubine de palais, mon plan établi dans ma tête, je vais m'enfuir pour retrouver Ahmed, l'homme qui est le sultan de mon cœur, lui qui attend toujours mon retour dans ses bras. Les harems impériaux de l'Empire ottoman du XVIe et XVIIe siècle ont fait couler beaucoup d'encre dans l'histoire. Contrairement à l'imagerie populaire à connotation uniquement sexuelle d'un harem, c'était surtout un lieu sacro-saint, où les femmes de la famille trouvaient une retraite sûre et respectable. C'était le quartier des femmes dans une maison musulmane. Le harem impérial abritait les maisonnées réunies de la mère du sultan, la reine-mère, des épouses préférées du sultan et du reste de ses concubines. Il contenait également les maisonnées des filles célibataires du sultan. Des jeunes filles d'une beauté incomparable étaient envoyées à la cour du sultan, souvent à titre de cadeau de la part des gouverneurs. De nombreuses femmes du harem étaient des circassiennes, des géorgiennes et des abkhazes. Au harem, les filles apprenaient à danser, à réciter de la poésie, à jouer des instruments de musique et à maîtriser les arts érotiques. Seules les plus douées étaient présentées au sultan comme ses servantes personnelles. Le harem fonctionnait selon une stricte hiérarchie de femmes qui allait, en bas de l'échelle, des odalisques ou femmes de chambre jusqu'au pouvoir suprême de la reine-mère. Les jeunes femmes cherchaient secrètement à gravir les échelons, espérant atteindre la catégorie du nazeki ou épouse principale du sultan. L'ensemble du harem était composé d'antichambres spacieuses avec, au centre, une grande salle de réunion. Dans les antichambres, les femmes menaient une vie sociale avec leurs invités et esclaves féminins. À l'intérieur des pièces, des estrades supportaient, brodant les parois, des divans sur lesquels étaient placés des coussins de soie et de brocarts finement brodés. Dans les harems des plus fortunés, les fenêtres donnaient sur des beaux jardins. Gulnaz, réveille-toi. Nous allons au hammam. Ne sois pas en retard, sinon tu n'as pas fini d'entendre le maître assistant. Une des filles m'appelle depuis l'étage des concubines, étage juste en dessous du mien. En tant que favorite du sultan, j'ai droit au privilège d'avoir ma chambre personnelle au niveau supérieur, avec les autres favorites. Le grand jour était arrivé. Me réveillant en sursaut, J'entends les autres concubines rassembler leurs paniers de toilette et plier soigneusement les pechtemals et avli, la longue serviette en coton pour s'envelopper au hammam et la plus petite serviette pour se sécher. Je m'étire et me redresse lentement, l'esprit plus rapide que mes gestes. À partir de maintenant, chaque pas me rapprochera de la liberté. Mais un faux mouvement et je peux perdre la vie. Pour l'instant, je dois agir comme d'habitude et attendre avec impatience la partie préférée de ma journée, le luxueux rituel du bain et la convivialité avec les filles au hammam. Je prends mon panier, en y mettant les serviettes et le savon à l'huile d'olive et de rose que j'aime tant, qui laisse mon corps parfumé comme les roses de mon village. Ensuite, la jolie bouteille d'eau de rose pour me laver le visage et l'huile d'abricot pour m'hydrater. Anastasia, puis-je emprunter ton flacon de parfum de lavande et d'œillet ? J'interpelle ma seule amie du harem. Aujourd'hui, j'ai besoin de ma confiance, de mon intelligence et de mon instinct de survie. Et j'espère que le parfum me rendra intrépide, comme la puissante reine Urem Sultane d'il y a un siècle, qui aimait le porter. Je dépose rapidement dans le panier ma boîte à bijoux délicatement ouvragée. Et saisissant une paire de sabots de hammam en bois, incrustés de nacre, je file hors de la pièce avec les autres filles, le tout sous l'œil acéré du maître assistant. Le rituel du hammam, ou bain turc, délicieusement purifiant et relaxant, est vieux de quelques siècles. En arabe, hammam signifie « diffuseur de chaleur ». Originaire d'Arabie, il a cheminé à travers les coutumes de bain des Ottomans, lesquels les ont mélangés aux traditions des termes publics romains, donnant naissance à un rituel de purification répondant aux exigences de l'islam. Alors que les villes et les villages avaient leur hammam public, les palais impériaux et l'élite de la société disposaient de hammams privés, généralement situés au sein de l'ensemble du harem, au bout d'une allée bordée de fleurs. Ils comprenaient une série de salles dont les températures augmentaient progressivement et qui étaient abritées sous des structures en forme de dôme. La grande entrée présentait le plus souvent une fontaine centrale et conduisait à la pièce fraîche, pièce où l'on se déshabillait pour se mettre en tenue de bain et où l'on rangeait ses affaires. Dans le vestiaire, la lumière du soleil entrait par un lanterneau au sommet du dôme. Souvent, une fontaine centrale agrémentait la grande entrée. On passait ensuite du temps dans la pièce chaude, ou ikiklik, où une vapeur dense et humide détendait les muscles et détoxifiait le corps. Une activité semblable à celle du hammam et du sauna d'aujourd'hui. Enfin, venait l'expérience de la salle très chaude. Des fenêtres circulaires ou en étoile, appelées œil d'éléphant, étaient taillées dans le plafond pour laisser entrer la lumière naturelle. Une plateforme en marbre de forme rectangulaire ou octogonale, appelée gobek tassi, ou pierre du ventre, haute d'environ 50 cm, était construite au milieu de cette salle et utilisée pour les massages, le savonnage et le gommage. Cette salle très chaude s'appelait le sikaklik. Des kurnas ou lavabos étaient placés contre les murs à des distances appropriées. Laissant leurs vêtements au vestiaire, les femmes s'enveloppaient dans les longues serviettes en coton ou pechtemal. Une serviette plus petite, appelée avli, était utilisée pour se sécher. Après avoir essoré les cheveux avec une serviette et les avoir peignés, on enroulait autour de la tête un turban en forme de gaze pour absorber toute l'humidité restante. Les femmes de l'élite avaient souvent des broderies confectionnées au bord des serviettes. Elles mettaient ensuite des sabots en bois à talons hauts, appelés nalines, qui empêchaient de glisser sur le sol mouillé ou de se salir les pieds dans les rigoles d'eau savonneuse. La base des sabots était généralement taillée dans des bois durs et solides, platane, noyer, ébène et bois de santal, ornés d'argent, d'or, de nacre, d'écailles de tortue et parfois de minuscules clochettes, avec un bracelet en tissu ou en cuir décoré de pierres précieuses, de perles, de fils d'argent et de broderies. Enroulé sur le pied de la porteuse, l'ensemble faisait de ces sabots une œuvre d'art. Chaque femme avait de 13 à 14 accessoires de bain différents, signalant la richesse de la culture du bain turc. Le bol de bain était en argent, en bronze ou en cuivre, décoré de reliefs ou d'incrustations. L'étui à savon se présentait comme un récipient à couvercle, avec une poignée sur le dessus, de forme ovale, avec des trous au fond. On y plaçait savon, peigne, gants pour frotter ou faire mousser. Après le déshabillage, les bijoux étaient gardés dans un récipient métallique en forme de citrouille. On utilisait des miroirs de forme ronde ou ovale, encadrés de bois ou d'argent délicatement sculptés. Une tradition intéressante consistait à partager fruits, limonades ou divers jus de fruits et sorbets avant ou après un bain. En entrant au hammam, non loin de nos appartements, un sentiment familier de détente m'envahit. Le hall si spacieux, avec ses hauts plafonds, le marbre frais sous mes pieds et les odeurs captivantes de jasmin, d'eucalyptus, de romarin et de citron qui flottent dans l'air me rendent optimiste pour la réussite de mon projet. Nous nous dirigeons doucement vers le vestiaire. L'atmosphère de langueur délie les langues et soudain, le vestiaire résonne de rires, de bavardages enthousiastes et de secrets murmurés. Bientôt, des vêtements jonchent le sol et les bancs. Traînant autour de la fontaine centrale, certaines filles se servent des sorbets et des fruits proposés. C'est un beau désordre. Chacune est distraite, occupée de soi-même et de ses amis. Voilà bien l'endroit le plus approprié pour exécuter mon plan. Depuis mon arrivée de Missy, j'ai trouvé, dans les rituels raffinés du bain au hammam, un répit à mon envie intense de rentrer à la maison et à mon désir de retrouver Ahmed. Au hammam, impossible de précipiter les choses. La vapeur doit pouvoir s'infiltrer dans vos pores. La masseuse prend son temps pour détendre les muscles. Le parfum des argiles nettoyantes et du henné apaise les sens et l'application des huiles de beauté vous ancre dans l'instant présent. Les filles sont occupées à partager les histoires de la vie au village, à échanger des avis sur la conservation de la jeunesse, à jaser sur les maîtres assistants et sur leur béguin collectif pour le beau professeur de musique. Pour ne pas éveiller les soupçons, je participe aux conversations. Je ris des commérages d'hier soir, pose des questions sur la musique, les plats et les divertissements offerts par l'épouse principale pour célébrer sa grossesse. Mais bientôt, j'ai l'air préoccupée, il y a de quoi s'inquiéter. Hé Gulnaz, de qui rêves-tu ? Raconte-nous. Un groupe de filles me taquine en riant. Pendant que l'une applique sur ses cheveux mouillés une pâte d'argile nettoyante, une servante préposée au bain verse le reste de l'eau d'argile sur les cheveux d'une autre pour les assouplir et les conditionner. Il se trouve que je suis l'une des favorites du sultan, et les filles envient et admirent mon statut. Et je ne leur en veux pas. J'ai une chambre séparée, une assistante personnelle et de beaux caftans, faits des plus belles soies de Bursa. Et si je devais donner naissance à un prince, mon statut et mes pouvoirs seraient ceux de l'épouse principale. Pourtant, je suis la seule à savoir à quel point tout cela signifie peu pour moi. Car mon cœur saigne pour Ahmed. Arrête ça, Ayesha. Je ne rêve que du plat d'agneau délicieux de notre déjeuner d'aujourd'hui. Je réplique avec un sourire rapide à la chef du groupe. Je ne veux éveiller aucun soupçon. Les filles sont malines et peuvent me dénoncer au maître assistant, juste pour gagner quelques faveurs futures. Les dames de l'Empire ottoman privilégiaient la conservation d'une apparence saine et nourrie plutôt que le maquillage. Cela signifiait des rituels de bains et de soins élaborés avec des produits purs et naturels, un régime alimentaire sain et une exposition à l'air frais extérieur. Outre la nutrition et la digestion, un lien étroit était établi entre le sommeil et le fait de garder un teint de jeune fille. Un autre aspect important de la toilette quotidienne était l'usage de parfums réputés avoir aussi des propriétés aphrodisiaques. Au hammam, la première halte était le bain de vapeur, là où la chaleur permettait aux muscles de se détendre et activait la circulation sanguine et lymphatique. Au fur et à mesure que la chaleur ouvrait les pores, les toxines étaient éliminées et la peau nettoyée en profondeur. Ceci était suivi d'un rinçage frais avec l'eau du bain, parfumée à la violette et aux fleurs odorantes de saison. La masseuse ou la préposée au bain massait ensuite le corps en pétrissant les muscles avec de l'huile d'olive pour détendre et détoxifier. Venait ensuite un gommage du corps avec une moufle en poil de chèvre appelée kessa ou avec un gant de toilette en crin de cheval pour réduire la cellulite et assouplir la peau. Suivait une application de savon à l'huile d'olive pure, puis à l'aide de pierres ponces, les pieds étaient grattés pour enlever la peau sèche et faire apparaître dessous une peau plus lisse. Au final, après avoir été rincé et séché, c'était un lissage avec un peu d'huile de noyau d'abricot. On faisait d'abord bouillir des noyaux finement brisés dans de l'eau, puis on tamisait et chauffait à nouveau le produit aqueux dans de l'huile d'olive. L'huile ainsi produite était utilisée pour le visage et pour les mains. Un quart d'heure dans le hammam a purifié mon corps et mon esprit de l'inquiétude des jours précédents. Tandis que la chaleur se diffuse sur ma peau, mes pensées reviennent au temps où je passais mes soirées dans les bras d'Ahmed, ma tête posée sur son large torse tiède. Allongée sur la dalle de massage en marbre, sentant les muscles crispés de mes épaules se détendre sous les caresses expertes de la masseuse, je ne peux m'empêcher d'avoir les larmes aux yeux en regardant Anastasia. Elle mâche une brindille de miswak pour se nettoyer les dents dans le coin le plus éloigné. Anastasia est originaire de Céphalonie. Elle est arrivée au harem la même semaine que moi. Nous étions devenus proches, partageant nos secrets, nos peurs et notre désir de rentrer chez nous. Ensemble, nous avions dû apprendre à nous habituer aux façons du harem et à ses rituels qui nous relient à un ancien mode de vie. Mais Anastasia avait développé l'ambition de devenir un jour l'épouse en chef du sultan. « Le sultan sera à moi seul et ce palais aussi », avait-elle déclaré en riant lors d'une de nos promenades dans les jardins impériaux. Sous le ton léger de la remarque, j'avais senti son ambition brûlante. C'est pourquoi je ne peux plus lui faire confiance. Je suis toute seule. Mon désir de liberté me donne confiance en moi. « Vous sentez-vous détendue, madame ?» demande la masseuse. J'acquiesce d'un oui, paresseux. Les dames ottomanes confiaient leur beauté à ce qu'il y avait de mieux en matière d'ingrédients naturels et de recettes anciennes. Les savons étaient sans parfum et sans produits chimiques, parfois vieillis pendant des années comme le vin. Dans la Byzance du Xe siècle, plus tard nommée Constantinople et aujourd'hui Istanbul, existait une guilde d'artisans du savon. Ces artisans produisaient du savon avec comme matière première de l'huile d'olive et du suif. Des savons à base d'huile pure étaient utilisés comme nettoyants capillaires. Un autre produit populaire pour rincer le visage était l'eau de rose, laquelle promettait une peau lisse, sans problème et sans rides. L'huile de rose, obtenue en trempant des pétales de rose dans de l'huile de sésame et d'olive pendant des jours, était une autre recette courante pour hydrater les mains, les pieds et le visage. De plus, elle était utilisée pour le traitement des maladies mentales dans la médecine ottomane. On se devait d'avoir un corps lisse et sans poils. L'épilation corporelle était une autre partie très essentielle des rites de mise en beauté. Pour cela, les dames utilisaient des dépilatoires comme une pâte de jus de citron et de sucre appelée agda. Le produit, ressemblant à un bonbon, était roulé à la main jusqu'à ce que les poils y adhèrent et soient arrachés. On employait également du sucre à l'intérieur d'un citron comme gommage pour éclaircir la peau et guérir les cicatrices. L'hygiène dentaire était assurée en mâchant des brindilles de l'arbre miswak ou de l'arbre salvadora persica. Un rinçage au sel gemme dilué dans de l'eau éclaircissait les dents, tandis que les caries étaient tenues à distance par un bain de bouche au miel et au vinaigre. Le harem s'approvisionnait en argile exotique et locale, en savon, en produits de nettoyage, en parfums et autres articles de toilette auprès des marchands des bazars animés de l'Empire ottoman. Je suis sortie de ma rêverie en entendant Ayesha m'appeler encore une fois. Cette fille. Gulnaz, viens, on se fait traiter les cheveux au henné aujourd'hui. Joins-toi à nous. Tes mèches captent si joliment le soleil. Je ne peux pas refuser, de peur que cela ne conduise à une nouvelle enquête de la part d'Ayesha, la bavarde. Je me dirige vers les filles, en équilibre sur mes sabots, là où les assistantes plongent leurs mains dans les bols de henné et couvrent de cette pâte les cheveux des filles. Comme je rejoins le groupe et que je m'installe, l'une des assistantes met le henné parfumé sur mes cheveux. Je soupire profondément. La fraîcheur de la pâte d'herbe sur ma tête me calme les nerfs. Autour de moi, les femmes sont occupées aux différentes étapes du bain. Quelques-unes sont passées dans la salle de refroidissement pour paresser sur des lits de repos, bavarder avec les autres et prendre des fruits, du thé ou un sorbet, tandis que leurs assistantes leur tressent des cordelettes de perles dans les cheveux. Une fois le henné séché et au courant des derniers potins du palais, je me dirige vers le kurna pour rincer mes cheveux, là où des lavabos sont disposés autour de la salle couverte de marbre. Une assistante prend de l'eau parfumée aux fleurs avec un bol en argent filigrané, pour enlever le henné séché. Mon esprit s'emballe maintenant que le bain touche à sa fin. Le moment de m'enfuir est proche, et un faux pas pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Les dames ottomanes étaient renommées pour leur chevelure épaisse et luxuriante. En dehors de la génétique, on peut attribuer cela aux heures passées à en prendre soin, avec les produits les plus naturels, purs et nourrissants, ainsi qu'aux traditions. Par exemple, les propriétés de l'eau étaient adoucies et enrichies en faisant bouillir des fleurs. Mauve, lotus, violette, hibiscus, fleurs parfumées comme les roses et les coquelicots, et celles qui guérissent comme la camomille. Rincer et laver les cheveux avec de l'eau adoucie assurait un lavage délicat. Une recette pour conditionner les cheveux consistait à les rincer avec les restes de l'eau dans laquelle avait trempé de l'argile nettoyante. L'argile et l'eau étaient mélangées dans un récipient en argile appelé kildanlik. Un autre type de savon, appelé bitim sabunu, à base de pistache sauvage, était utilisé pour les cheveux et le corps. Connu pour ses propriétés antiseptiques, il était également pour retarder l'apparition des cheveux gris. Il y avait de nombreuses façons de couvrir les gris ou de donner des reflets aux cheveux dans l'Empire ottoman. L'une d'elles consistait à laisser tremper les cheveux dans la décoction de peau d'oignon bouilli. Oignon rouge pour les cheveux foncés et oignon blanc pour les cheveux clairs. On pouvait aussi faire bouillir du thé fort à la camomille et en rincer les cheveux. L'exposition au soleil des cheveux lavés était censée faire ressortir des reflets naturels de couleur claire. Le henné était un remède très populaire, non seulement pour colorer, mais aussi pour fortifier les cheveux. Il donne une belle teinte rouge qui peut être nuancée selon la quantité d'eau, de thé noir, d'indigo et d'huile d'olive ajoutée à la poudre verte. Les femmes ottomanes traitaient au henné leurs cheveux au hammam et les enveloppaient dans des serviettes au henné, aux bords brodés ou crochetés. Pour donner brillance et force aux cheveux, on massait le cuir chevelu avec de l'huile d'amande et avec une pâte d'argile ou des savons avant de les laver. Les cheveux étaient peignés avec des peignes faits en ivoire et recouverts d'argent et d'or. Les cloches de Sainte-Sophie sonnent 10 heures. C'est maintenant ou jamais. J'adresse une autre prière au ciel pour implorer grâce et protection. Je sais que la vieille blanchisseuse et son fils seront au hammam dans une demi-heure pour récupérer les serviettes et les draps et les emporter hors du palais jusqu'à leur laverie près du Bosphore. En roulant un pechté mâle autour de mon corps et mes cheveux dans une délicate serviette de mousseline, je me livre à un dernier rite. Je puise dans mon panier de toilette pour en sortir la petite bouteille de lavande et d'œillet. Je mets un peu de ce parfum, espérant que ce sera mon talisman et qu'il me portera chance, tout comme il l'a fait pour l'ancienne reine Urem. La brume est maintenant très épaisse. Des senteurs de musc et de fleurs venant d'huiles diverses et de parfums se mêlent dans l'air, et les femmes sont bercées dans un état de langueur tranquille. Certaines commencent à fredonner le chant de la concubine que nous avions autrefois composé. D'autres se joignent à elles et les notes montent et descendent à l'unisson. Dans mon esprit, cela résonne comme un adieu vibrant, comme si les femmes chantaient pour ma liberté. J'ouvre discrètement la porte de la salle de service et m'assure qu'il n'y a personne. Dans l'armoire à outils et à fournitures, comme je m'y attendais, je trouve une tenue de servante, un déguisement parfait. Les senteurs exotiques étaient une part indissociable de la culture ottomane, un héritage olfactif enraciné dans l'islam et dans la situation géographique de la ville, qui a vu beaucoup de commerces de résines aromatiques et d'épices. De merveilleux parfums ont été utilisés dans de nombreuses civilisations avant l'islam, comme chez les Sumériens, les Babyloniens, les Urartu, les Grecs anciens et l'Empire romain, puisque presque toutes ces civilisations ont été fondées ou ont eu des liens avec l'Anatolie, on peut dire que la Turquie a été le berceau de la parfumerie. Dans son légendaire marché aux épices, Génois, Vénitiens et autres marchands négociaient différentes épices et résines parfumées, concoctant aussi des recettes de crème, de cosmétiques, de l'eau d'encens et de parfums. Les archives de l'histoire ottomane sont riches en documentation de recettes de divers arômes avec la rose, le musc et l'ambre, senteurs les plus prisés dans la vie quotidienne des Ottomans. Les parfums n'étaient pas seulement employés pour sentir bon, mais aussi comme remède contre les maladies physiques et mentales. Ils étaient non seulement portés, mais aussi consommés, ajoutés au sirop sur les desserts et dans les sorbets. Les parfums étaient réalisés dans des cuisines spéciales où l'on fabriquait également eau florale et savon. Ces arômes étaient ensuite distribués aux officiers royaux du palais. Les gens du peuple achetaient les leurs à des attars ou marchands qui vendaient également des médicaments naturels, des remèdes populaires et des eaux florales. Les senteurs servaient aussi pour transmettre des messages secrets ou subliminaux. Une jeune fille, voulant faire allusion à son désir de se marier, utilisait une odeur de guenier. Une famille venant faire une demande en mariage pour la fille d'une autre famille apportait en cadeau une fragrance de lys, tandis qu'on se servait d'huile de rose et de musc pour le corps des nouvelles mariées. Pendant le travail de l'accouchement, les femmes devaient sentir l'eau de rose et leur corps était frotté avec de l'huile de rose pour faciliter la délivrance. Un parfum de jacinthe sur un mouchoir suggérait mécontentement, douleur ou colère. Au palais, des rituels raffinés tournait autour des parfums. Une cérémonie du café organisée par une dame impériale a été décrite ainsi. 40 serviteurs servaient de l'eau de rose aux invités et réalisaient d'autres rituels parfumés. La cérémonie commençait avec un serveur qui entrait dans la pièce tenant un brûleur d'encens. Eau de rose, ambre et musc étaient versés sur du bois et du trèfle pour faire de l'encens afin d'éloigner le mauvais œil. De l'eau de rose était ensuite versée sur les mains de chaque invité. Puis était servi un entremets à la cannelle ou au clou de girofle pour obtenir une odeur fraîche à respirer tout en bavardant. Enfin, le café pouvait être servi. Les sultans utilisaient également des parfums lors des réunions d'État, par exemple en portant de l'oud ou bois d'agar comme symbole d'esprit politique et de justice. Si un délégué étranger se voyait offrir de l'eau de rose le matin, il savait que cela signifiait une rencontre avec le sultan ce jour-là. Il porterait également un parfum de rose à la réunion pour s'assurer de sentir bon pour le sultan. Comme l'oud, l'ambre et le musc étaient les fragrances du prophète Mahomet, employées dans l'encre des correspondances avec les villes saintes de la Mecque et de Médine après leur conquête par Yavuz Sultan Selim. Les sultans et leurs épouses avaient également de fortes préférences personnelles. Soliman le Magnifique avait une prédilection pour l'ambre, le musc et la rose, tandis que le jasmin, la lavande, la rose et le yai avaient la faveur de son épouse principale, la sultane Urem. La légende raconte qu'elle se faisait masser les pieds avec 70 grammes d'huile de lavande, de sorte que lorsqu'elle marchait, son sillage était parfumé à la lavande. Je me glisse rapidement dans la tenue de servante et m'assure que le panier à linge géant de la salle de service est rempli du linge de la semaine. J'entends les voix de deux femmes s'approcher et me cache derrière le panier. Heureusement, les voix s'estompent quand les maîtres assistants, chargés de nous raccompagner au harem, passent dans le hall. Je dois me dépêcher. Je finis d'enrouler le turban de servante autour de ma tête, prends une grande inspiration et me hisse dans le grand panier en faisant glisser les piles de serviettes humides sur ma tête. J'entends à nouveau des pas et des voix. C'est la blanchisseuse boiteuse et son vigoureux fils. Je suis maintenant bien enfoui sous le tas de linge et sens qu'on emporte et soulève le panier sur la charrette qui attend à l'extérieur. Le fils de la blanchisseuse fait une remarque sur la lourde charge du jour et il est dûment réprimandé par sa mère, qui lui rappelle les dizaines d'invités étrangers de cette semaine. La charrette roule maintenant à travers le jardin impérial, vers les grilles du palais. Mon cœur bat à tout rompre, de peur et d'excitation. Bien qu'un peu étouffé, je retiens mon souffle, de crainte de me trahir. Une secousse soudaine me dit que nous avons traversé le monticule juste à l'extérieur des grilles. Je commence lentement à réaliser. Je lève doucement la tête du dessous du panier. Je jette un coup d'œil par le couvercle. J'entends la mère et le fils se disputer. Je me tourne pour regarder. La voilà, la sublime porte, derrière nous.
Vous venez d'écouter un épisode des Rituels de beauté à travers les siècles par l'Officine Universelle Bully. Retrouvez prochainement une nouvelle histoire qui vous fera voyager dans le temps. Nos podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute.